debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Le monde, femmes esclaves, déprisons nos entraves. Tabou, tabou. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous. Brisons nos entraves, debout, debout. Levons nos femmes esclaves et jouissons sans entraves, debout, debout, debout.
Bonjour et bienvenue pour cette émission du collectif Debout, collectif féministe nancéien et mixte. Donc moi c'est Sarah,
Maya,
Michel,
Alison,
Patricia.
Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler des diktats de la beauté. Mais pourquoi avons-nous fait ce choix, Maya ?
Soutien-gorge rembourré pour fillettes, obsession de la minceur, banalisation de la chirurgie esthétique, prescription insistante du port de la jupe comme symbole de libération, la tyrannie du look affirme aujourd'hui son emprise pour imposer la féminité la plus stéréotypée. Décortiquer presse féminine, discours publicitaire, blogs, séries télé, témoignages de mannequins et enquêtes sociologiques pour montrer comment les industries du complexe mode beauté travaillent à maintenir, sur un mode insidieux et séduisant, la logique sexiste au cœur de la sphère culturelle. Sous le prétendu culte de la beauté prospère une haine de soi et de son corps, entretenue par le matraquage de normes inatteignables. Un processus d'autodévalorisation qui alimente une anxiété constante au sujet du physique, en même temps qu'il condamne les femmes à ne pas savoir exister autrement que par la séduction, les enfermant dans un état de subordination permanente. En ce sens, la question du corps pourrait bien constituer la clé d'une avancée des droits des femmes sur tous les autres plans, de la lutte contre les violences à celle contre les inégalités au travail. Alors ce que je vous lis, c'est le quatrième de couverture d'un livre que j'ai découvert en préparant cette émission qui s'appelle « Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine » qui a été écrit par Mona Chollet en 2012. Et voilà, nous souvent on prépare ces émissions, c'est l'occasion pour nous de discuter, de découvrir des chansons, des ressources et de vouloir vous les faire partager aussi. Et voilà, pour finir peut-être l'introduction, je vais vous lire encore une petite phrase. Écrire un livre pour critiquer le désir de beauté, il n'y a pas de mal à vouloir être belle, m'a-t-on parfois objecté, lorsque j'évoquais autour de moi le projet de cet essai. Non, en effet, ce désir, je souhaite même le défendre, voir chapitre 2. Le problème, c'est que dire cela à une femme aujourd'hui revient à peu près à dire à un alcoolique au bord du coma éthylique qu'un petit verre, de temps en temps, n'a jamais fait de mal à personne.
Merci pour cette introduction. Alors, je crois que ça abordait un peu là dans l'extrait que tu as lu. On souhaitait parler un petit peu de l'image qui est donnée des femmes dans les médias.
Oui, alors moi je voudrais un petit peu rebondir parce que effectivement, à la veille de l'été, les magazines féminins sont de plus en plus alimentés par les diktats justement de la beauté. Alors il faut être ceci, il faut être cela. Alors l'été, il faut être mince. L'été, il faut être bronzé. L'été, il faut avoir des seins magnifiques. Bref, l'été, c'est l'occasion ou jamais de mettre en beauté les femmes et de leur faire une pression sociale épouvantable avec tout ça.
C'est-à-dire qu'on peut être moche le reste de l'année.
Peut-être pas, mais là, franchement, il y a une abondance de littérature dans les magazines féminins qui est tout à fait à relever. Parce que
la pression augmente.
Et chaque année, c'est la même chose, les régimes, etc. Pour être belle sur la plage, n'est-ce pas ?
Si vous regardez au moins 3-4 mois avant l'été, on vous parle à chaque fois de régime, de maigrir à tout prix. Il faut au moins 5 kilos de moins pour pouvoir être impeccable sur la plage, pas un gramme de graisse en trop.
Oui, c'est un des exemples de dépression que peuvent subir les femmes dans notre société. C'est cette histoire du poids, hein, comme l'exemple des régimes, c'est un bon exemple. Pour développer un petit peu sur les images qu'on peut voir des femmes dans les médias, on peut parler peut-être aussi, on a parlé des magazines, on peut peut-être parler aussi de la publicité qui est très très présente.
C'est impossible quand même d'aller dans une ville, quelle qu'elle soit, sans voir partout des images de femmes au corps très stéréotypé pour vendre tout et n'importe quoi. Partout, vous avez en 4 mètres sur 3 mètres ou bien en taille réelle, partout des images des femmes qui doivent être comme ci, qui doivent être comme ça, qui sont belles, forcément belles. Et voilà, il n'y a que ça. C'est impossible d'y échapper. C'est une suprématie publicitaire. Et ça nous renvoie forcément, nous, toutes les femmes, ça nous renvoie à notre corps, comme tous les corps stéréotypés d'hommes, les renvoie aussi à se questionner sur leur propre corps. Et que ce soit admirer ou haïr, c'est impossible d'y échapper.
Et le truc à préciser important, c'est que ces images n'existent pas, elles ne sont pas réelles, elles sont toutes préfabriquées par des logiciels de retouche d'images, et on peut voir qu'elles sont toutes retapées, le mannequin en fait ne ressemble plus du tout à l'image finale. Donc c'est bien une image fausse de la femme qui est représentée partout, sur toutes les affiches, dans les médias, partout, et c'est toujours les mêmes normes qui se mondialisent et qui reste toujours la femme parfaite qu'il faut ressembler.
Et je pense qu'on appelle ça la fabrication des stéréotypes. Il faut absolument se conformer aux images que la société attend des femmes. Et évidemment, toute l'idéologie patriarcale est là-dessous aussi, avec évidemment aussi le marketing qui va avec. Hein, parce que ça, c'est massif également.
Oui, là on parle de publicité, donc il s'agit effectivement de vendre des choses. Quand tu dis stéréotypes, est-ce que vous pouvez aller regarder les affiches, et puis Alison expliquait qu'elles sont retouchées, donc on blanchit les peaux, on maigrit les cuisses, on maigrit le ventre, on peut grossir un peu les seins, c'est très intéressant. Sur internet on voit des tas d'exemples comme ça, comment faire des retouches, comment sont les mannequins en vrai, c'est-à-dire on voit que physiquement, ce serait des femmes qu'on croiserait dans la rue, elles nous paraîtraient avec un physique classique. Puis quand on les voit sur les affiches, c'est pas du tout l'image qui est donnée. C'est une image irréelle, quoi. Il s'agit d'un fantasme, on peut dire un peu.
On peut le dire, je pense. C'est très fantasmatique, tout ça.
Et surtout que les publicités nous rappellent toujours des... subtilement ou pas d'ailleurs, que la femme est un objet de désir, et beaucoup de publicités jouent sur la séduction, sur l'objet et la femme qui est représentée dans la pub. Ouais. Souvent. Ça doit être toujours quelque chose de beau à regarder, que ce soit séduire. Toujours un modèle sexualisé, quoi.
Ouais.
On a tendance à vanter une femme par son physique et pas par son intelligence, son métier, ses compétences. On est vraiment centré là-dessus, on le voit dès l'école maternelle. On a tendance à dire aux petites filles « Oh, t'es très jolie, t'es bien habillée aujourd'hui », au lieu de chercher à savoir si elle s'en sort bien dans ses capacités intellectuelles.
On peut s'interroger sur pourquoi aussi ça prend. Parce que on peut nous imposer plein de choses stupides, nous vanter les mérites de quelque chose, mais pourquoi est-ce que ça prend si bien dans l'esprit des femmes? Et c'est vrai que systématiquement, c'est impossible d'avoir un magazine féminin où n'est pas mis en avant une top modèle ou une actrice avec la liste shopping qui va avec. Alors voilà, des robes à 500 euros, etc. Toute la liste de maquillage qu'il faut. On est beaucoup là dans le liste de le shopping. Ça, c'est dans l'espace publicitaire, l'espace médiatique, mais c'est aussi dans le quotidien où, au travail, on nous renvoie aussi souvent des remarques sur notre physique, des remarques sur notre habillement. Et qu'on devrait, par exemple, une femme qui se retrouve à l'accueil comme hôtesse doit être habillée en jupe, en tailleur, pour bien présenter.
Oui, même maquillée. Hein. Moi, je connaissais une jeune femme qui travaillait comme vendeuse. Son employeur l'obligeait à se maquiller, par exemple. On n'imagine pas ça, d'où un employeur peut faire ça. C'est, voilà, c'est l'image. Vous faites de la vente, maquillez-vous, soyez belle, etc. Ce n'est pas vos conseils à la personne qui vont compter, quoi.
Et ce qu'on va mettre en avant, effectivement, bah, c'est tous ces atouts, beauté, et que ce soit les marques qui vont s'en servir de ces femmes comme effigie, ou toutes ces jeunes filles et toutes ces femmes qui prennent pour modèle justement ce qui leur est présenté comme étant le must à atteindre. Voilà. Et même sans aller dans ce souci de la perfection, eh ben c'est impossible au quotidien de ne pas pouvoir s'intéresser à toutes ces questions.
Donc Maya, tu posais la question du pourquoi la conformité de toutes les femmes à ces modèles-là. Et c'est peut-être intéressant de réfléchir effectivement aux causes. Pourquoi les femmes sont-elles aussi soumises à ces diktats de beauté ? Alors, moi, je pense que l'éducation, effectivement, influe dès la naissance, hein, parce que les petites filles en rose, les garçons en bleu, et puis, bon, tout ça s'ajoute très... On en a déjà parlé.
Mais c'est très difficile quand on a des jeunes enfants. Voilà, quand on a une petite fille, ben, elle veut absolument mettre sa robe de princesse et ressembler à une princesse. Mmh. Et ses modèles, elle les a à l'école, elle les a à la télé, elle les a partout. Les enfants traduisent bien, justement, je trouve.
C'est du matraquage, c'est... je pense. On peut utiliser le mot de matraquage.
Et Barbie, on est exactement le bon exemple.
Ah, Barbie.
tout le monde connaît. Tout le monde en a. Quand on était petite fille, on a beaucoup, on en a eu. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Barbie, l'exploratrice ou aventurière, tout ça. C'est surtout princesse ou machin fouette belle. Et d'ailleurs, Barbie n'existerait pas non plus si elle était réelle. Certaines personnes ont essayé de créer la Barbie qui ressemblera à une femme normale, avec les mensurations moyennes des adolescentes américaines. Elle est normale, quoi, tout simplement.
Elle a la place pour les intestins.
Voilà. et la vraie Barbie, tiendrait pas debout, elle peut pas exister. C'est vraiment un fantasme.
La société fait vraiment du lavage de cerveau de toute façon, et se sert vraiment des contes pour enfants, des jouets, de ces éléments pour arriver à formater et à maintenir les gens dans cette société où la jeune femme doit être à tout prix jolie, etc.
Oui, donc on se retrouve avec un peu des idéaux d'apparence normative. Hein, on parlait de la minceur, la blancheur, on peut parler aussi de l'épilation.
Pour revenir sur l'éducation des fillettes, alors je vais vous lire des passages, hein, pendant l'émission, parce que moi j'ai vraiment été touchée par ce livre. L'éducation des fillettes semble s'en tenir aux mêmes éternels conformismes. Les parents jurent parfois avoir observé un goût spontané pour certains loisirs, en oubliant combien l'acquis peut facilement se travestir en inné et en négligeant les caractéristiques propres à cet âge. Le manque de recul et la recherche éperdue de conformité, synonyme d'intégration et de popularité auprès des petites camarades.
Voilà, s'intégrer en se conformant aux normes. Voilà, c'est le mot exact, de se conformer aux normes qui sont dictées. Quand on est une fille, on a les cheveux longs. Quand on est une fille, on ne va pas s'habiller dans le rayon garçon. C'est un exemple vécu, hein. J'ai eu un enfant qui a découvert la maternelle et toutes ces normes. C'est vraiment quelque chose d'important à aborder, les normes. Alors, on a choisi un exemple un peu sonore, sur quelque chose d'un peu drôle, d'un peu humoristique, sur une norme bien connue qui est l'épilation. Et il s'agit donc d'une chanson d'Isabelle Ferron qui s'appelle Le poil.
Je voudrais vous parler de lui, vous parler d'un être meurtri, dont on se moque, dont on rit. C'est facile, il est si petit. Il vivait là, tout près de nous. On le trouvait un peu partout, de la mer du Nord au Pérou, de Bamako à Malibu. Pendant des siècles, tout allait bien. Tout le monde en prenait grand soin. On le trouvait mignon tout plein. Et puis tout d'un coup, tout soudain, une conspiration infernale a décidé qu'il était sale. Vous savez bien de qui je parle. Mais oui, c'est de lui. C'est du poil. Le poil est un être vivant. Il ne demande rien, il veut pousser tout simplement. Le poil est un être vivant. Il porte dans son cœur toutes les couleurs de ses parents. Le poil est un être vivant. D'où vient-il, où va-t-il le poil? On ne le sait jamais vraiment. Le poil est un être vivant. Regardez-le de près, vous verrez qu'il est innocent. Quelques rebelles ont résisté. Ils ont tenté de se dresser contre la glabre autorité. Ils ont tous été épilés. Les plus durs se sont cachés là, croyant échapper au trépas, entre les cuisses et sous les bras. Et ont-ils survécu? C'est chez la femme, comme par hasard, qu'ils subissent le sort le plus noir. Ils sont arrachés par milliards, sauf chez Binabar, j'ai cru voir. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Traqués jusque dans les trous de nez, même leur nom n'est plus cité que pour de tristes colibés. Poil au nombril, poil au néné. Le poil est un être vivant. Il ne demande rien, il veut pousser tout simplement. Le poil est un être vivant. Il porte dans son cœur toutes les couleurs de nos parents. Le poil est un être vivant. D'où vient-il, où va-t-il le poil? On ne le sait jamais vraiment. Le poil est un être vivant. Regardez-le de près, vous verrez qu'il est innocent. J'ai un rêve, qu'un jour on puisse tous, sans avoir peur de passer pour des blaireaux, qu'on puisse tous crier à poil. Ouais. Les seuls tolérés, ce sont ceux qui se font appeler cheveux. Là par contre, on les veut nombreux, on les abrite même quand il pleut. Moi je le crie, je le soutiens. Mais oui, le poil est féminin, c'est de la fourrure du satin. À part que ça ne coûte rien. Il nous entoure, il nous protège des agressions, des sortilèges, qui du soleil, qui de la neige, qui du blizzard, du feu, que sais-je. Le poil est fait pour la caresse, pour qu'on y perde avec ivresse ses griffes dans sa jungle épaisse. Le poil mérite qu'on le connaisse. Le poil est un être vivant. Il ne demande rien, il veut pousser tout simplement. Le poil est un être vivant. Le poil est un être vivant. D'où vient-il, où va-t-il le poil? On ne le sait jamais vraiment. Le poil est un être vivant. Quand il n'y en aura plus, c'est le cœur qu'on trouvera bruyant.
Vous écoutez le collectif Debout, collectif féministe nancéien et mixte sur RCN 90.7. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler des diktats de la beauté. Donc là, c'était une petite chanson un peu humoristique sur les poils.
Alors, pardon.
Michel.
Maya.
Qu'est-ce que c'est donc être une femme? Parfois, on nous renvoie à une vision, je veux dire, très corporelle, esthétique, d'apparence de la féminité. Et alors moi, je me suis interrogée, mais alors finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour être une femme selon cette apparence? Donc, déjà, il faut être mince et jeune, pas avoir de rides, là on est bien. Il faut de préférence porter une jupe ou une robe, hein. Si on ne porte que des pantalons, c'est suspect. Il faut porter des bijoux, il faut porter des talons hauts, il faut avoir un sac à main, il faut être épilé. Et moi, je vous dis tout ça parce que voilà, c'est pas évident pour tout le monde. Hein. Moi, j'ai pas de sac à main, par exemple. Je vois pas en quoi ça m'empêche d'être une femme. Je vois pas en quoi c'est gênant, mais c'est vrai que voilà, je n'ai pas de sac à main. Voilà, excusez-moi, mesdames et messieurs. J'ai un sac à dos.
On avait fait un petit affichage là-dessus il y a quelques temps. Je vous lis ce qu'on avait noté sur notre affiche. Aussi différentes que nous soyons, la plupart des jeunes femmes ont un point commun. Nous sommes toutes élevées dans la croyance qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Nous sommes trop grosses, nous sommes écervelées, nous sommes trop futées, nous parlons trop, nous sommes pas assez féminines. Nous sommes trop sexy, nous ne sommes pas assez sexy. Et donc on avait ajouté à la fin, merde, tu n'es pas trop grosse, tu ne parles pas trop, il n'y a rien qui cloche chez toi. C'est pas grave si tu n'as pas de sac à main.
Mais enfin, il y a vraiment une assignation des rôles. Voilà, les hommes sont assignés aussi à leur rôle et ils peuvent pas forcément exprimer de critères esthétiques, vestimentaires, de bijoux, etc. Autant les femmes sont vraiment assignées à ce rôle de plaire.
C'est voilà, vraiment le sois belle et tais-toi.
Oui, mais plaire, plaire aux autres avant de se plaire à soi-même. Pour le regard des autres, pour se conformer même au regard des autres, et aussi pour insister justement sur créer une différence des sexes, même si elle serait pas visible. Il faut absolument créer cette différence. Et c'est quelque chose qui a pas toujours existé en fait, puisqu'avant le domaine des robes, du vestimentaire, des bijoux était à la fois masculin et féminin. Et c'est au cours de l'histoire que on a réservé aux hommes une place plus utile et rationnelle. Et donc on a laissé aux femmes tout ce qui était de l'ordre de l'esthétique.
C'est là aussi qu'on voit que les codes changent vraiment avec les époques, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à une époque, les bagues, c'était réservé aux hommes, et que par la suite, ça a été réservé aux femmes. Ça commence seulement à être un peu plus mixte. On voit vraiment qu'on impose quelque chose à un moment donné, à un sexe, à une époque, alors que ça devrait être pour tout le monde.
Il faut bien préciser que là, on parle de l'histoire de la société occidentale. Je pense qu'il faut le préciser, parce qu'on doit avoir des exemples tellement variés d'évolution par rapport à ça dans le monde. Voilà, donc c'était sur ce côté historique de l'apparence, il y avait peut-être des choses à ajouter.
Je peux continuer à vous lire des extraits si vous voulez.
Un court extrait, donc toujours du livre de Mona Chollet, ça sera votre livre à acheter pour l'été.
Oui, tout à fait. On peut donc émettre l'hypothèse que les femmes, parce qu'elles ont été assignées à l'entretien des objets et des corps, mais aussi du rôle de beau sexe, façonnant avec soin leur apparence, plus à l'aise que la plupart des hommes dans le choix et l'agencement des tissus, des couleurs, des ornements, ont conservé un rapport au monde plus riche et plus juste que le rapport dominant. Le complexe mode beauté, en les bombardant de vêtements, de sacs, de chaussures, de bijoux, de cosmétiques, etc., détourne donc à son profit une attitude juste, mais il la dénature, en la condamnant à ne pouvoir s'exprimer que sous le régime de la consommation. C'est l'essor de la vision marchande qui a fait déchoir la sensualité et avec elle tout ce que pouvait venir enrichir notre appréhension du monde. Et c'est encore l'ordre marchand qui vient le récupérer à son profit. Voilà, c'est vraiment le souci de l'esthétique en soi. Et pas condamnable, et même noble, c'est une recherche artistique. Ce qui est gênant, c'est de vouloir le réduire à tout cet aspect consommation aussi.
Oui. Il y a la police du genre, c'est intégrer comment les hommes et les femmes doivent s'habiller pour rester dans une norme sociale acceptable. Donc les personnes qui dépassent ces limites sont jugées... sont jugées différentes et hors normes et
on les met à côté quoi.
Voilà. Et donc on va dire que la norme est sexiste, elle est homophobe, lesbophobe, elle est transphobe parce que toutes les personnes qui s'habillent un peu différentes, qui cherchent un petit peu à s'habillent comme elles le veulent, tout simplement, qui dépassent les limites, sont simplement mis de côté.
Ça peut être source de discrimination, enfin, le fait de ne pas respecter ces normes. Alors, je pense peut-être plus pour les femmes, je vais prendre l'exemple des métiers de la restauration, parce que j'y ai travaillé. Et si vous allez dans un restaurant, dans un bar, vous regarderez le physique des hommes et des femmes qui vous servent. Il y a vraiment une attente hein, par rapport au physique pour les femmes, c'est-à-dire que, bah, qu'elles aient les cheveux longs, la peau claire, qu'elles soient minces, bah, quand même ni trop petites ni trop grandes aussi. Voilà, qu'elles rentrent vraiment, qu'elles viennent épilées aussi pour travailler, si elles se maquillent c'est mieux. Donc on rentre vraiment, c'est l'exemple du commerce en général, mais là pour la restauration je connais et il faut vraiment bien regarder. On rentre vraiment sur cette chose que bah, moi j'ai envie d'être serveuse, d'ailleurs ça m'est arrivé, j'avais envie d'être serveuse. Et ben je correspond pas à cette norme. Ben si je fais des choix qui sont différents de la norme, je travaillerai pas comme serveuse. Ça s'appelle voilà directement de la discrimination. Hein, l'embauche. Je donne l'exemple de la restauration, mais le commerce de vêtements pour femmes dites jeunes, hein, un peu à la mode, etc. Ils recrutent pas de femmes de plus de 30 ans. Ils l'assument. Tout le monde le sait. Tous les gens dans le commerce le savent.
Ils disent clairement, de toute façon, dans le commerce en général, que quand on dépose un CV, il faut qu'il y ait une photo. S'il n'y a pas de photo pour montrer l'aspect physique de la jeune femme, justement, le CV sera mis à la corbeille. Donc c'est le secret de Polichinelle. Ce n'est pas légal, mais pourtant c'est fait.
Une autre citation. De nombreuses femmes sont exaspérées de se voir réduites à leur apparence et constatent, avec une certaine frayeur, à quel point elles ont une conscience aiguë des regards posés sur elles. Elles ont intériorisé leur dimension d'objet, objet de regard, objet de désir, dans une mesure qui laisse peu de place à leur subjectivité. Mais en même temps, elles s'irritent de voir que beaucoup d'hommes, à l'inverse, enfermés dans une pure subjectivité, n'ont aucune conscience des regards de leur entourage. Et voilà, en force de tout le temps nous renvoyer à notre image, à force de tout le temps devoir plaire par le physique, on intériorise tout ça. C'est pas quelque chose d'inné, hein. C'est vraiment c'est du matraquage. Mais nous-mêmes, on se perçoit plus comme un objet. Et moi, ça me rappelle quand on avait travaillé sur le plaisir féminin, on a fait une émission en octobre. Et ben, moi, j'avais lu pas mal de témoignages. Et la raison principale pour laquelle, enfin, qui empêche les femmes d'éprouver du plaisir lors d'une relation sexuelle, c'est l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Et elles se disent que ah ben l'autre va voir leur bourrelet, l'autre va et elles se sentent mal et ça les empêche de prendre du plaisir. Et ça, c'est grave.
Carrément, on rentre vraiment dans tout ce qui est conséquence hein, de cette pression. C'est-à-dire que bah, si on se sent prise dans une pression de l'apparence, on se regarde et on n'arrive pas à vivre. On va être vraiment dans vouloir tout contrôler. Bah, là, l'exemple du plaisir féminin, on ne peut pas avoir de plaisir si on est dans le contrôle sans cesse, à se dire oh, « là, est-ce qu'il voit mon bourrelet ou pas ?» etc. quoi.
Et c'est indépendamment du corps qu'on a. Parce que bah, voilà, y a aussi des témoignages des mannequins. Et il y en a notamment une dans ce livre, donc une mannequin qui travaille avec d'autres mannequins et qui dit « là je suis affreuse, là j'ai l'air conne et je connais pas un seul mannequin qui dise « j'ai un corps formidable, je l'adore », pas un seul.
Et d'ailleurs, même les désirs sont culturellement, ils sont culturels aussi. Les désirs, les fantasmes, tout ça sont fabriqués. Et si on avait vraiment envie de s'habiller comme on voulait, bah peut-être que les désirs seraient un peu débridés et on pourrait vraiment imaginer, enfin, être plus libre tout simplement.
Oui, moi je voulais parler de l'insécurisation que cela représente. Parce qu'en fait, d'après tout ce que vous dites là, moi j'entends qu'il y a une insécurisation basique, basale, je ne sais pas comment on peut dire, des femmes. Et d'où vient-elle cette insécurisation ? C'est que parce qu'on leur renvoie qu'elles ne sont pas à la hauteur, qu'elles sont vraiment des êtres inférieurs, et que c'est vraiment l'image sociale qui se transmet aussi à travers tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses bougent un peu, hein ? Donc franchement, il y a beaucoup de travail, hein ? Mais que les hommes également ont un impact, et la société aussi, bien sûr, dans son ensemble. Mais comme la société, elle est patriarcale, c'est quand même encore les hommes qui déterminent tout ça. Et soit on monte au créneau assez durement et on reprend tout ça avec les hommes, soit les hommes vont bouger d'eux-mêmes parce qu'ils vont comprendre qu'ils n'ont pas à considérer les femmes comme des objets à manipuler, mais que ce sont des sujets, qu'elles ont une existence, une identité, qu'elles existent par elles-mêmes, qu'elles ont des tas de qualités, d'intérêts dans la vie. Mais il faut aussi que les hommes bougent par rapport à l'image qu'ils veulent donner aux femmes.
Bouger ensemble. Avant de continuer sur cette thématique, on souhaitait passer une chanson qui va aborder une des conséquences possibles de cette pression sociale à l'apparence normative, ce diktat de la beauté pour les femmes. C'est une chanson qui aborde la problématique de rentrer dans les régimes et puis de tomber petit à petit dans la pathologie, comme ça peut arriver à certaines femmes et aussi des hommes, mais plus rarement. Donc c'est une chanson qui parle de ce qu'on appelle l'anorexie mentale. Il s'agit de la chanson « Ficelle », donc de Cyrano.
Il existe une fille qui n'a plus goût à la vie. Ce petit bout de fil apparaît-il perdu l'appétit. On l'appelle ficelle, celle au ventre noué. Celle qui flotte dans ses jeans et qui n'aura jamais de goût. Elle pourrait être mannequin avec ses airs d'arlequin. Mais elle n'a pas la force car au dîner la sombre idiote ne mange qu'une feuille de salade au fond d'un ramequin. Elle a les bras si fins quand elle te serre, elle te ligote. D'ailleurs tous les garçons s'enfuit comme des lâches. Mais ficelle, c'est qu'elle casse. Si elle s'attache et ça l'arrange même assez, car la jeune fille est lassée, que tous ses peurs de la lasser. Ficelle, ses mains sont liées,
comme celle d'un forçat
qui fixe le calendrier. Grimpe à grain le sablier, frite son corps pour le plier.
Nickel, adore ça.
Être légère dans ses souliers, ne plus sentir son estomac. Elle fait des nœuds pour ne pas être dans son assiette et n'a pas besoin de cuisinier. J'suis pas venu pour la bavette,
n'y pense pas.
C'est moi qui invite, mais toi t'habites
et bouffe la vie, fillette.
Elle est frêle et plate, elle est presque insensible, elle est frêle et plate. Et son nom qui les arde les murs est si mince qu'elle frêle et plate. Elle est comme ceux de son âge, elle veut être invisible car elle se sent dans la marge. Une rature en pâte de mouche tout illisible, personne ne la voit, pourtant elle est si fine et subtile. Alors pour disparaître, elle va de crise de l'âme en salle gym. Y'a rien de mauvais pour la santé dans la mode et le futile, sauf quand c'est le cœur qui est au régime. Ficelle, ses mains sont liées,
comme celle d'un forçat
qui fixe le calendrier. Grimpe à grain le sablier, frite son corps pour le plier.
Nickel, adore ça.
Être légère dans ses souliers, ne plus sentir son estomac. Elle fait des nœuds pour oublier
qu'elle a tendance à
ne pas être dans son assiette. N'a pas besoin de cuisinier, j'suis pas venu pour la bavette,
n'y pense pas.
C'est moi qui invite, mais toi t'habilles.
Et bouffe la vie, fillette.
Personne ne la voit quand elle tente de communiquer. Tout s'interroge, mais d'où vient cette voix étrange? Aigre douce, peut-on être aussi maigre sans être aigri, plus chétif? Elle se désintègre, ce n'est peut-être pas non plus complètement un choix. On rejette quelquefois ce qu'on ne digère pas. Et l'existence entière peut paraître avariée quand le menu qu'elle nous propose n'est pas assez varié, pas assez riche, trop peu léger et pas assez de calories. Faut faire chauffer la machine et c'est le sourire dont elle se nourrit. Ficelle, tu veux vivre mais tu te sens lourd, te fais pas de ville. Dis-toi que la vie ne tient qu'à un fil. Ficelle, ses mains sont liées,
comme celle d'un forçat
qui fixe le calendrier. Grimpe à grain le sablier, frite son corps pour le plier.
Nickel, adore ça.
Être légère dans ses souliers, ne plus sentir son estomac. Elle fait des nœuds pour être dans son assiette, n'a pas besoin de cuisiner. J'suis pas venu pour la bavette,
n'y pense pas.
C'est moi qui invite, mais toi t'habille
et bouffe la vie, fillette.
Hey.
Donc vous écoutez le collectif Debout, collectif féministe nancéien et mixte sur RCN 90.7. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler des diktats de la beauté. Vous venez d'entendre une chanson qui s'appelait Ficelle et on vous mettra le lien vers le clip sur notre site internet www.collectif-debout.org.
Oui, l'anorexie, c'est une démonstration. L'anorexie actuellement en France touche 15% des adolescentes. C'est énorme et c'est une violence. Le taux de mortalité de l'anorexie est de 5 à 10%. Le débute de plus en plus tôt, vers 9 ans actuellement. On remonte vers 8-9 ans. Les filles deviennent anorexiques. Alors je dis les filles parce que 90% des anorexiques sont des filles. Donc il y a donc aussi une partie de garçons, mais c'est une manière d'exprimer un mal-être, mais par une insatisfaction corporelle. Voilà, toujours revenir au corps. C'est aussi une manière de montrer le refus du corps féminin. Une société qui refuse de donner sa place aux femmes, qui refuse aussi le corps des femmes, qui refuse les rondeurs des femmes, c'est aussi le symptôme d'une société qui refuse les femmes, tout simplement. Alors, je vous lis encore une petite phrase. Le corps est le dernier lieu où peuvent s'exprimer la phobie et la négation de la puissance des femmes, le refus de leur accession au statut de sujet à part entière, ce qui explique peut-être l'acharnement sans borne dont elles font l'objet. Quels que soient ses efforts pour se faire toute petite, une femme prend toujours trop de place.
Sur la pression sur le corps. Donc c'était l'exemple de l'anorexie qui est une pathologie vraiment importante qui peut mener à la mort, la non-alimentation.
Mais quand même, il y a d'autres normes différentes dans d'autres sociétés. Par exemple, en Afrique, au moment du mariage, on engraisse les femmes parce qu'elles doivent plaire à leur futur mari et il faut qu'elles soient très grosses. Et c'est pareil, une autre contrainte, parce qu'on les oblige à manger, on les oblige à s'engraisser au sens littéral du terme, parce que la norme dans cette société-là est différente. Et là, c'est important aussi de souligner que les normes viennent quand même des pressions de la société dans laquelle tu es. Et que les normes, elles évoluent aussi d'une société à l'autre.
Oui.
Et d'une époque à l'autre.
Mais par exemple, on a dans toute la presse occidentale qui va bien, bien au-delà, on a un seul modèle de femme. Voilà. Alors peut-être la couleur des cheveux qui peut changer, mais sinon c'est à peu près les mêmes mensurations, la même façon de s'habiller, les mêmes tailles et aussi la même couleur blanche. Et par exemple, il y a la chanteuse Beyoncé qui est apparue sur la une d'un magazine. Sa peau a été blanchie. Elle n'était plus noire, elle était beige. Et en Asie, par exemple, c'est aussi toujours ce même et unique modèle, comme si on devait toutes correspondre à ce seul modèle acceptable qui ne prend pas trop de place. Et en Asie, des opérations de chirurgie esthétique pour se débrider les yeux, se blanchir le teint, tout ce qu'il faut faire aussi pour se défriser les cheveux, parce qu'avoir les cheveux raides, même quand on a des cheveux... afro, ça ne va pas. Et on veut toujours, que ce soit une norme ou une autre, effectivement. Le problème, ouais. C'est cette volonté de contrôle.
Et puis de récupération, parce que moi, je pense que dans les défilés de mannequins, si on n'a pas une femme à la couleur foncée, on a l'impression de ne pas se conformer non plus, parce que c'est devenu ça aussi, la récupération. On ne met pas forcément en avant une femme blanche. On veut aussi des femmes de différentes couleurs, de différentes origines, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça, et la récupération marchande, elle est partout.
Mais il y a l'importance de l'industrie et du capitalisme dans la fabrication de modèles et de comportements sociaux.
Oui, mais c'est fondamental aussi, ça, dans notre société à nous, occidentale. Là, c'est massif, quand même. Je crois qu'il faut le souligner que, effectivement, tous ces critères de beauté et de conformisme à des images, c'est aussi parce que ça fait vendre et ça enrichit certains.
Oui, c'est vrai qu'on parle forcément de ce qu'on se connaît. Après, la culture occidentale, c'est aujourd'hui la culture dominante, hein, qui s'installe partout dans le monde parce que les pays de l'Occident ont colonisé différents pays, que ce soit sur le continent africain, le continent australien, américain, asiatique. Donc voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça, mais en même temps, c'est le modèle qui s'impose partout pour pouvoir vendre, parce que les multinationales, elles viennent principalement d'Occident. Elles veulent vendre leurs produits. Alors certes, elles veulent nous vendre des hamburgers et du Coca-Cola, mais elles veulent aussi nous vendre du maquillage, des vêtements, que ça change souvent, qu'ils puissent nous revendre des vêtements. Hein. Normalement, des vêtements, on les recoue, on peut les garder assez longtemps.
C'est pas la mode.
Voilà, c'est plus à la mode. Elles veulent vraiment nous vendre des tas de produits amincissants pour le sport. Vous avez plein de choses pour faire du sport, des machines de dingue. On peut aller faire de la randonnée sinon. Hein. Donc c'est vraiment important de dire que ça se croise, cette pression sociale sur les femmes, sur l'apparence et la possibilité comme ça de leur vendre des tas de produits, quoi.
Et y compris aussi les interventions chirurgicales qui coûtent très cher pour te refaire les seins, pour te refaire le nez, pour te refaire les fesses, pour te refaire un tas de trucs. Et ça, c'est rentable, hein, c'est lucratif. Et c'est devenu un business incroyable. La chirurgie esthétique, c'est un business incroyable.
Et sans aller jusqu'à ces extrêmes, il y a toute la gamme épilatoire qui oblige les gens à s'épiler. On voit surtout cette contrainte, par exemple au travail, où on est un peu obligé de s'épiler ou de se cacher parce que ça ne fait pas bon genre, parce que c'est sale. Et heureusement, y a des femmes qui résistent et qui ne s'épilent pas et qui l'assument complètement et qui sont acceptées. Y a aussi des photographes, il y a beaucoup de choses qui essaient de mettre l'image de la femme comme j'ai rien contre les personnes qui s'épilent, hein, bien au contraire. On s'épile ou on ne s'épile pas.
Je préfère t'entendre dire ça parce que j'ai la phobie du poil.
Très bien, mais nous, ce qu'on dit, c'est que les personnes qui se cachent ou qui s'obligent à s'épiler parce qu'au travail, elles ont des remarques désobligeantes, c'est une contrainte et on n'a pas envie que cette contrainte s'est propagée à tout le monde. Donc moi, je m'épile aussi, mais je le fais pour moi, je ne le fais pas pour les autres.
Oui, tout à fait. C'est ça l'important, en fait, du message qu'on voudrait faire passer, mais on en parlera tout à l'heure, peut-être.
Voilà. Il faut qu'on assume le... Enfin, ça serait bien qu'il y ait plein de... Que les femmes qui ne veulent pas s'épiler s'assument et elles vivent bien, et sans contrainte, sans qu'il y ait toujours des remarques qui viennent toujours lui faire la rappeler à l'ordre, tout le temps.
Et c'est pareil au niveau du maquillage. Si vous regardez bien, quand on regarde dans la rue, la plupart des femmes se sentent obligées de mettre une couche de maquillage. Elles ne se sentent pas bien dans leur peau naturelle. Et quelque part, elles portent un masque. Elles ne sont pas vraiment elles-mêmes.
Voilà, donc c'est important ce que tu dis, Michel, sur le message que nous, on veut faire passer. On n'est pas contre le fait de se maquiller, de mettre des robes, d'avoir les cheveux longs ou de s'épiler. Ce qui nous gêne beaucoup, c'est la pression sociale pour qu'on fasse absolument ça, que les femmes le fassent absolument, sinon elles ne sont pas des femmes, elles n'ont pas leur place dans la société. L'exemple du travail, c'est un bon exemple, mais en tout cas, elles ne sont pas considérées comme des femmes ni vues comme des femmes. Donc on veut passer un grand message de liberté, et pour illustrer un petit peu ce message de liberté, on a choisi une chanson de Anne Sylvestre qui s'appelle « Gulli verte ».
Vint une belle gaillarde épaulée comme un camion, les yeux comme des mansardes et puis les cheveux si longs qu'on aurait dit l'autoroute qui va de Marseille à Aix. Elle mettait en déroute tous les donneurs de complexes. Elle dit je suis Gulli verte et je me sens bien, vous me trouvez grande certes, je n'en dis qu'on vient, mais vraiment mes petits hommes vous êtes charmants, vous me regardez en somme comme un monument, grande grande je suis grande, je me demande à quoi servent ces échelles, ces escabelles. Par amour ou par bravade, on en vit une flopée, entreprendre l'escalade de la belle démesurée. Mais il se perdait en route, ou bien il dégringolait, ne pouvant la saisir toute, la plupart abandonnaient. Elle dit je suis Gulliverte et vous m'épatez. Je ne me suis pas offerte à vos privautés. Car enfin mes petits hommes, si je vous fais peur, vous semblez ignorer comme en bas mon cœur. Grande, grande, je suis grande, je me demande comment vous faire comprendre que je suis tendre. Tu es moche, mais pour qui donc te prends-tu? Tu n'as rien dans la caboche, et puis tu es mal foutu. Non, vraiment, pour rien au monde, nous ne voudrions de toi. Tu es vraiment trop immonde, tu ne nous inspires pas. Alors on vit Gulliver te sera tatinée. C'est une trop grande perte, je veux être aimée. Prenez-moi mes petits hommes, je raccourcirai. Je serai comme trois pommes si cela vous plaît. Grande, grande, je suis grande, je me demande quoi faire pour qu'on me désire et même pire. Quand elle fut assez petite, on voulut bien l'épouser. On l'engrossa au plus vite pour l'empêcher de bouger. Elle fut sans crier grâce, une admirable maman, sans un rêve qui dépasse et trompée raisonnablement. On vit Gulliver se mettra à changer. Et par la fenêtre ouverte on l'entendit chanter. Elle dit mes petits hommes je me sens grandir. Et je me retrouve comme dans mes souvenirs. Grande, grande, j'étais grande. Je me demande ce qui a pu me contraindre à tant vous craindre. Elle se mit sans scrupule à s'allonger à vue d'œil. Ses soupirs en minuscules durent en faire leur deuil. Malgré leurs échafaudages, leurs gradins, leurs ascenseurs, leurs chansons et leurs chantages, elle reprit sa hauteur. Elle dit je suis Gulliverte et je me sens bien. Vous me trouvez grande, certes, je n'en dis qu'on vient. Maintenant mes petits hommes, à vous de grandir. Comptez plus que je me gomme pour pas vous ternir. Grande, grande, je suis grande, je me demande si ce n'est pas par votre faute que je suis haute. Grande, grande, je suis grande, je me demande comment vous faire comprendre que je suis tendre. Comment vous faire comprendre que je suis tendre.
Vous écoutez l'émission du collectif Debout, collectif féministe nancéien et mixte, sur RCN 90.7. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler des dictats de la beauté, mais une petite parenthèse pour vous annoncer notre actualité. Nous accueillons donc Nathalie Lebon par téléphone. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
C'est Sarah. Alors, tu as enregistré. Donc, je vais rappeler pourquoi nous t'avons appelé. Pour présenter, en fait, une soirée qu'on va faire ensemble, donc le collectif Debout et toi, où tu pourras nous parler des luttes des femmes et des luttes féministes au Brésil. Ça sera donc le 22 juillet au CCAN à 18h30. Donc, le CCAN 69 rue Mont-Désert à Nancy. Et donc, je te laisse te présenter.
Oui, donc moi, je suis Nathalie Lebon. Je suis originaire d'ici. Je suis anthropologue, mais j'habite maintenant depuis 20 ans aux États-Unis, où j'ai fait un doctorat en anthropologie avec une spécialisation sur le mouvement des femmes au Brésil. Et donc, ça fait à peu près 20 ans que j'accompagne certains groupes qui travaillent sur São Paulo. Au sein du mouvement des femmes. Et ce dont on va parler un petit peu le 22 juillet, c'est un peu le parcours, l'évolution du mouvement des femmes et du mouvement féministe au Brésil, qui suit un petit peu aussi le chemin du mouvement dans les autres pays d'Amérique latine, où on a un mouvement assez très fort quand même, et très très diversifié. Une partie bien institutionnalisée, mais aussi une autre partie de vraiment de mouvement social de masse avec de grandes manifestations de femmes. Voilà, donc c'est un petit peu le sujet qu'on va aborder. Et, voilà, et je ne sais pas s'il y a autre chose que tu veux que je complète.
Bah déjà, merci à toi. Voilà, on est assez impatientes de cet échange. Peut-être qu'on peut dire un petit mot sur ton travail avec la Marche mondiale des femmes, parce que c'est par là qu'on s'est rencontrés, parce que le collectif Debout est en lien avec la Marche mondiale des femmes. Donc toi-même, tu as travaillé un petit peu avec ce mouvement ?
Oui, oui, oui. Donc, je fais un petit travail de recherche sur la marche mondiale en France et au Brésil. Donc, deux réalités économiques et politiques et de mouvements des femmes aussi qui sont très différentes. Et donc, voilà. Donc, cette année, j'étais ici à Nancy. J'ai fait beaucoup de voyages à Paris quand même. J'ai travaillé dans les archives de la marche mondiale ici en France. Et puis j'ai passé un mois au Brésil où j'ai accompagné et interviewé des personnes qui participent à la marche mondiale. Alors tu voudrais que je parle un peu plus de la marche
Ah non, on veut que les gens ils viennent le 22 juillet, hein, ils viendront t'écouter le 22 juillet.
Oui, c'est donc la marche mondiale quand même.
C'est déjà bien d'avoir quelques petits éléments pour leur donner envie de venir.
Oui.
Après peut-être que toi tu as envie de dire quelque chose sur notre thématique d'émission de radio aujourd'hui. Une petite phrase rapide si tu avais envie de dire quelque chose sur la thématique. On a choisi les dictates de la beauté. Donc voilà, si tu avais un mot ou deux à dire, tu peux. Sinon, si tu n'as pas envie, comme tu veux.
Oui, c'est une problématique vraiment complexe, je trouve. Surtout, en fait, je pense qu'il faut surtout être attentif à la question de la sexualisation. J'ai une fille de 8 ans, enfin, elle va avoir 9 ans, là, et j'y pense souvent à ces questions-là, parce que d'un côté, je ne veux pas qu'elle... disons que je veux qu'elle soit libre de choisir la manière d'exprimer son identité féminine à la manière qu'elle le souhaite. D'un autre côté, bon, et puis c'est vrai que souvent la féminité a été quand même reléguée au deuxième plan. Enfin, c'est quelque chose qui est considéré comme... bon, quelque chose de peut-être un peu trivial, même à la limite, par rapport à la masculinité ou à la, hein, c'est quelque chose avec lequel on peut jouer. C'est lié un petit peu aussi à un certain, à l'enfance aussi, peut-être, hein. Mais d'un autre côté, donc il faut quand même valoriser ces choses qui sont liées aussi à la beauté. C'est important, la beauté aussi, je crois. Mais d'un autre côté, effectivement, il y a tout un processus d'objectification et de sexualisation des femmes, du corps des femmes et du corps des petites filles. Ça, je trouve ça vraiment très très inquiétant. Je pense notamment aux chaussures à talons. Et d'autres types de vêtements qui sont pas toujours très appropriés. Alors c'est un peu compliqué parce que d'un côté on ne veut pas être prude, hein, c'est pas une question de ça, mais d'un autre côté il y a quand même une sexualisation, quoi,
un danger, quoi.
Voilà.
Merci à toi, Nathalie. D'accord. On va te laisser. On va essayer de conclure notre émission qui était encore trop courte. En tout cas, on est impatients de pouvoir t'entendre le 22 juillet à 18h30 au CCAN. Et merci pour toi pour cette intervention. Et puis, du coup, à très bientôt.
Merci.
Au revoir.
Et à bientôt, oui. Au revoir.
Donc voilà, donc on voulait vous présenter notre prochaine action avant de conclure notre émission sur les dictates de la beauté. Donc on remercie bien Nathalie Lebon et on vous invite vraiment à venir échanger avec elle. Ça sera pas une conférence, hein, le 22 juillet, ça sera ce qu'on appelle un peu un apéritif discussion. Nathalie pourra parler de ses expériences et de ses recherches et puis on pourra échanger avec elle autour d'un verre, de choses à grignoter. Voilà, ça reste convivial. Peut-être quelques éléments qu'on souhaitait apporter avant de conclure l'émission.
Deux choses. Là, je vais encore vous dire une petite phrase. La presse féminine en tant que telle n'est pas un genre bon à jeter à la poubelle. Du moins, elle ne le sera pas aussi longtemps que la presse dite généraliste restera une presse largement masculine, et notamment dans ses sujets. C'est-à-dire que les problèmes des femmes, les questions des femmes et aussi les questions d'habillement puissent exister partout, et qu'on ne cantonne pas les femmes à la seule presse qui parle de ce qui les intéresse.
Oui, moi j'ai bien aimé ce qu'a dit Nathalie tout à l'heure, parce qu'elle dit que la beauté et la créativité, c'est important aussi, et qu'on ne veut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que c'est important aussi de dire que on peut exister dans le bien-être, dans le fait d'être bien dans son corps, et que si on a envie de se raser les poils, on peut, mais si on a envie de ne pas se les raser, on peut aussi, et que ce qui est important, c'est la liberté et le bien-être corporel, personnel. Et donc, quand je dis tout à l'heure que j'avais la phobie, beau lapsus, la phobie des poils, ce sont des miens et non pas ceux des autres. Je veux bien dire que chacun et chacune, surtout chacune, puisque c'est le thème aujourd'hui, chacune fait comme elle veut. Et c'est un choix personnel et c'est une liberté qu'on doit conserver envers et contre tout.
Et voilà, l'important, c'est l'émancipation. Et est-ce que la liberté des femmes, est-ce que l'émancipation des femmes, c'est pouvoir être compétente dans se conformer au modèle vestimentaire, ou bien est-ce que c'est de pouvoir choisir leur vie et de parler de ce qui les concerne et de leur place dans la société, de leur place au travail, de leur considération, et qu'on soit dans l'amour du corps, l'amour de soi et de tous les bienfaits qu'ils peuvent apporter.
Voilà, c'est très important, et on a échangé en préparant cette émission sur, on se disait, mais il y a quand même une marge, on peut ne pas respecter ces normes, effectivement, mais c'est tellement matraqué qu'il faut avoir une sacrée force en soi pour ne pas respecter toutes ces normes et réussir à s'imposer, parce que si on est toujours regardé de travers, on a plutôt envie de rester dans la ligne qui nous est demandé par la société, quoi.
C'est pourquoi des fois il y a des initiatives d'artistes ou de créateurs qui justement mettent en avant comme par exemple des photographes qui prennent des femmes aux aisselles poilues. C'est une démarche pour justement montrer qu'il n'y a rien de sale là-dedans et que les femmes sont belles comme elles sont. Et il y a plein de façons de casser les normes et c'est des petites choses qui se font un peu partout, que ce soit en photographie, que ce soit en artistiquement ou autre.
Ce qu'il ne faut pas oublier en plus, c'est que peu de gens le savent certainement, l'épilation, c'est aussi tiré de la pornographie. Le fait que les femmes cherchent à se débarrasser d'absolument tous leurs poils dans la société occidentale, c'est lié à ça. Quand on y réfléchit, c'est quand même assez triste.
En effet. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à un grand message encore de liberté là-dessus? Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler de ces normes. Nous, ce pourquoi on lutte, c'est l'émancipation des femmes dans notre société, hein, pour qu'on ait les mêmes droits et puis autant de liberté pour vivre que les hommes, hein, simplement. Donc ça passe aussi par la lutte contre c'est tout ce qui est normes sur l'apparence. Voilà, est-ce qu'on ajoute un dernier mot avant de se quitter? Peut-être vous dire que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.collectif-debout.org. On vous mettra quelques liens sur la thématique et puis le clip de la chanson Ficelle. Et puis une autre chanson sur la thématique de l'anorexie. Comme on a hésité, on voulait vous faire découvrir nos deux chansons. Vous pouvez nous contacter soit à CCAN 69 rue Mont-Désert 54000 Nancy ou à contact@collectif-debout.org. Au revoir.
Au revoir.
Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime, les femmes.
à vous.